J'étais supposé rencontrer mon invité d'aujourd'hui un vendredi, mais il y a eu un feu à Montréal sur 1800 McGill College, sur le toit de l'édifice. La boucane s'est répandue partout dans les étages inférieurs, incluant le bureau de chez Gestion Landry. Heureusement qu'ils avaient un plan de mesure d'urgence. Ils se sont tout de suite dépêchés à surlouer des nouveaux locaux. J'ai dit à Charles, il dit, pas besoin de mettre le feu dans la bâtisse. Si vous voulez pas passer au podcast, juste me le dire. On a parti à rire, c'est pas vrai. Donc, c'était vraiment le fun. Belle ambiance quand même, puis ils ont montré que des plans de mesures d'urgence, ça vaut la peine de les faire pour pas qu'il manque un seul élément au niveau de la gestion, parce que même si le feu prend, il faut continuer à gérer les portefeuilles, la bourse n'arrête jamais. Alors, mon invité d'aujourd'hui, Charles Lemay, a travaillé aux États-Unis pendant plusieurs années, je crois que c'est 12 ans. Il a vécu et travaillé au New Jersey, à Brooklyn, à New York. On va parler de son voyage pour qu'il, après ça, il est revenu à Montréal. Et aujourd'hui, le travail en développement des affaires pour Gestion Landry. On va se parler de la comparaison entre Montréal, New York, le talent, les études, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre peut-être des Américains, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire de mieux ou de bien, parce qu'il est également membre du CA pour le Conseil des gestionnaires en émergence, le CGE, et il comprend bien aussi le fameux PGEQ, le programme pour les gestionnaires en émergence, qui aide les gestionnaires à pouvoir gérer des sommes les plus importantes au niveau institutionnel. Donc, on a beaucoup sur le programme, comme vous pouvez le voir. Et c'est Pierre-Luc Poulin pour le podcast de l'émergence. Alors, je suis auteur, formateur, auteur du livre Buffett et compagnie, formateur en finance et je suis intervieweur aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous présenter Charles Lemay de Gestion Landry. Bonjour Charles, comment ça va?
Ça va bien toi?
Et tu nous accueilles dans ton bureau de survie?
Le bureau, le backup plan, un business continuity plan en mode réel.
En mode réel, est-ce que vous en aviez un?
En théorie, il y en a toujours un. C'est quelque chose qui est requis par l'AMF. C'est quelque chose que tu dois toujours penser en termes de conformité. Qu'est-ce qui arrive si justement je n'ai pas accès à mes bureaux? Est-ce que je peux continuer à gérer de l'argent dans notre cas pour les clients? Et d'une façon théorique, c'est rare que justement on doit l'appliquer. Mais on a dû le faire à cause des feux à nos bureaux au 1800 McGill College.
Ben oui.
Puis ça nous a mis sous le test. Ça a pris à peu près une semaine pour tout se remettre 100% opérationnel, mais on a pu continuer à gérer le portefeuille dès lundi. C'est arrivé un vendredi après-midi. Fait qu'au cours de la fin de semaine, on a tout transféré les choses au bureau, à la maison du chef des investissements. Puis, on a réussi à avoir un bureau en dedans 3 jours. Puis, c'était la folie furieuse pendant une semaine.
Mais c'est ça, je t'ai dit à la blague, on était supposé se rencontrer pour un podcast. J'ai dit non, mais tu avais juste à dire non, mais pas le feu dans les bureaux. c'était le gag. Ouais. Mais tu parles, tu avais quand même, c'est très impressionnant. Donc, autrement dit, les investisseurs, les gens, ça n'est une preuve, ça. On est géré au Québec, on est à Montréal, il arrive quelque chose de feu et prise, c'est quand même pas agréable.
Ouais.
Vous aviez déjà un plan, puis ça s'est fait. Super, en dedans d'une semaine, de retomber sur les pieds, vous êtes ici dans des nouveaux bureaux, c'est pas des bureaux temporaires.
Ouais.
À tous les mois, maintenant, si tu me dis que tu y vas chaque mois, puis on va voir quand est-ce que vous allez revenir à vos nouveaux bureaux.
Ben, on n'a pas encore les détails exactement de quand est-ce qu'on va revenir aux nouveaux bureaux. Okay. On travaille étroitement avec les compagnies d'assurance ainsi que la compagnie de gestion de l'édifice. Mais ne sont pas encore clairs exactement sur un timeline. Ça pourrait être un autre 2 mois, ça pourrait être 6 mois, on ne sait pas.
Oh boy, OK.
Ouais. On fait ça mois par mois. Puis, ben, c'est pas le gouvernement, mais c'est parce qu'il y a eu des contaminations de fumée et de soot à travers le building. Donc, la qualité de l'air, un petit peu comme dans la situation du 11 septembre à New York,
c'est bon.
Ils veulent éviter justement des poursuites s'il y a des infections.
Donc, on va parler maintenant des choses plus sérieuses. Un petit peu, mais j'aime ça parce que ça montre un peu dans la réalité des choses. Quand on dit qu'on gère de l'argent, que les transactions qui sont faites, on surveille des stocks, on surveille des actions, il faut vendre, il faut acheter, il faut analyser. Des fois, on peut être une heure sortie du marché. Je te regarde avec tes écrans, toujours en train de surveiller ce qui se passe un peu. Donc, je voyais dans ton CV, tu arrives, toi là, tout frais, tu étais aux États-Unis pendant un bout de temps.
Oui, combien de temps? Une douzaine d'années là-bas.
Quand même.
Oui, de 2002 à 2014. Je suis allé là-bas au début pour l'université. Je suis allé au New Jersey de 2002 à 2005. Après ça, j'ai commencé en back office à Morgan Stanley en 2005 à Brooklyn. Puis je commençais du New Jersey. Puis ça me prenait 1h30 pas mal me rendre. C'est l'autobus, après le métro. Puis c'est drôle, ma station de métro, c'était la station juste après Wall Street. Wow. Fait que je passais Wall Street, puis je la regardais, puis je suis comme, non, je m'en vais à Brooklyn, moi. Je travaille pas sur Wall Street. Fait que c'était un petit peu un pincement de cœur quand tu le voyais passer. Un jour, je vais travailler sur Wall Street.
Ben oui, quand même.
Puis non, c'est ça. En 2006, j'ai transféré en crédit dérivé à Goldman, en opération aussi. Puis j'ai travaillé juste à côté. Mon métro, c'était Wall Street.
Ton métro, c'était Wall Street. Ton rêve était réalisé.
Oui.
Tu as travaillé là durant la... T'as été là durant la crise aussi.
Oui, exactement.
T'as survécu?
Oui, j'ai survécu. J'ai aussi été voir un cardiologue à 25 ans pour me faire demander, OK, des palpitations de cœur, c'est-tu normal? Puis il disait, ben écoute, disons la position que tu es dedans en ce moment, où est-ce que tu fais la gestion de risque pour les crédits dérivés durant la crise économique de crédit? Peut-être que tu es dans le feu de l'action plus que n'importe qui. Puis c'était vraiment une expérience inoubliable. Ça forme une personne, ça forme une carrière. C'était work hard, play hard. Puis je suis content de l'avoir fait quand j'étais dans la vingtaine et non dans la quarantaine avec les stress. Tu voyais des gens se faire envoyer à ta droite, à ta gauche. Puis tu gardais la tête basse, tu travaillais fort. Puis tu faisais des 80-100 heures par semaine. Puis c'était formatif.
Formatif. T'es un survivor.
Pas si un survivor, je suis très compétitif.
Très compétitif, OK. Ouais. Bon, ouais. Donc, tu as fait ça. Puis qu'est-ce que tu as trouvé? Parce que là, tu es revenu ici, au Québec. Puis là, quand tu regardes la comparaison, mettons, tu es en finance à Montréal présentement, depuis combien de temps tu es ici?
Je suis revenu en 2014, ça fait 4 ans.
4 ans. Puis quand tu compares les deux cultures, parce qu'on est dans le podcast de l'émergence, comme tu le sais, je fais la tournée des gestionnaires en émergence, des gens de Montréal qui gèrent de l'argent. Il y a une culture à Montréal. Puis depuis 4 ans, tu es capable de quand même sentir la culture. Puis si tu compares entre Wall Street puis Montréal Street, ou je sais pas moi comment on appellerait ça, René Lévesque Street. Mais si on s'amuse à faire une comparaison, what strikes you the most? Qu'est-ce qui te strike le plus?
C'est dur à dire exactement une chose. Je dirais que les gens à Montréal sont très travaillants. Je pense pas que ça l'en enlève. Peut-être l'ambition puis la compétition qui est là vraiment. Oui, je veux gérer 1 milliard. Oui, c'est une chose, mais de dire que tu travailles avec les meilleurs, puis t'es vraiment. Ça, c'est l'affaire que moi, je me suis posé la question justement hier soir. Qu'est-ce qui a fait la différence à Goldman? Puis l'esprit compétitif de performance tous les jours, day in, day out, strive to outperform. Puis c'était quelque chose qui était là. Puis l'autre affaire, c'est que tu es entouré de gens tellement intelligents, c'est les meilleurs. Tous les meilleurs, les plus talentueux, les plus intelligents du monde veulent travailler là. Fait que tu peux pas faire ton smart, tu peux pas faire ton cocky, tu peux pas faire être surconfiant parce que justement, tu vas te faire ramasser. Puis en finance, c'est un domaine qui va te garder très humble rapidement pour n'importe qui. Tout le monde en fait des erreurs ou tout le monde apprend de ses erreurs. À Montréal, c'est encore une fois cette ambition, cette peut-être de ne pas avoir peur de foncer. Il y a toujours un petit peu de je trouve, la peur de on dit « rock the boat » ou quelque chose du genre. Puis c'est un petit peu...
Pas de brasser trop la cage.
Oui, exactement. Brasser la cage puis dire « OK, ben, le status quo, il est bon. J'ai rentré dans ma job, je fais mon 100 000. Je vais rentrer à 8h45, je vais partir à 5h15. Je fais pas du 9 à 5, là, moi. Non, je fais du 8h45 à 5h15. Ou tu sais, quelque chose de similaire. Puis c'est encore ça que j'aimerais voir un petit peu plus de « think big ». Tu sais, t'as la plus grosse économie mondiale à côté de toi. Profites-en. Les États-Unis, c'est pas loin, là. C'est à 45 minutes. Puis on s'entend, juste New York, on est chanceux, on a la capitale mondiale de la finance à 6 heures de taux. Pourquoi t'es pas là-bas? T'sais, pourquoi est-ce qu'on en profite pas plus? Puis on a la chance de le faire. C'est...
Donc, si je t'entends bien, parce que je te vois réagir, j'aime bien gros, vous autres, vous le voyez pas, moi j'y vois à face, là, puis... Ça arrête pas. T'as encore fait de l'argent, là. Mais je comprends ce que tu as. Autrement dit, ça me fait penser un peu, parce que moi, j'aime bien gros le football, puis quand les joueurs partent de la ligne collégiale ou universitaire, puis arrivent dans la ligne nationale. Ils sont les meilleurs dans la ligne collégiale, ils arrivent dans la ligne nationale, puis là, ils peuvent pas être cocky, puis ils vont se faire ramasser par la ligne défensive ou la O-line, whatever. Puis là, ils arrivent parmi les grands. Fait que ce qui est en train de dire un petit peu, c'est qu'à Wall Street, c'est la ligne nationale. C'est vraiment la NFL, c'est vraiment... C'est les meilleurs des meilleurs.
Mais
c'est ça. C'est que le talent est ici.
Oui.
Il y a quand même du talent ici.
Il y a énormément de talent ici.
OK.
Puis des fois, la seule affaire que je dirais, c'est peut-être en business. Puis sais, je parle peut-être à travers mon chapeau un peu, mais la suréducation, quasi. L'éducation n'est pas chère ici, puis tu vois souvent la situation d'un standard montréalais que un jeune a une maîtrise et un CFA avant même de commencer à travailler. Fait qu'à 25-26 ans, il a zéro expérience, mais il a déjà une maîtrise puis un CFA, puis il ne sait pas quoi faire avec. Versus avoir un petit peu d'expérience de travail, savoir, OK, ben est-ce que j'ai besoin de faire un CFA? Est-ce que j'ai besoin de faire une maîtrise? Est-ce que je veux me spécialiser dans quelque chose de différent un peu à la place de faire le standard? Puis c'est un petit peu la raison pourquoi moi je suis parti aux États-Unis après avoir vu mon background de faire Notre-Dame, Grasset, tu sais, jouer au football. J'ai commencé à regarder le football universitaire américain. Puis je me suis dit, ben là, si je reste à Montréal, puis je vais au HEC ou à McGill. Deux excellentes universités cotées mondialement. Excellentes universités. Des meilleures universités d'un côté académique que où je suis allé. Je le reconnais 100%. Sauf que tu sors de là, numéro 132 des HEC ou numéro 5. Tu as un numéro. Puis après, qu'est-ce que tu as fait après ça? Il faut que tu te trompes d'expérience de travail. C'est pas être en génie, construire un pont. Oui, OK, fais deux bacs puis une maîtrise, s'assurer que les ponts s'écroulent pas, comme le beau pont Champlain. Mais, ou quand tu es médecin, continue tes études, c'est super important. Mais en business, c'est une expérience de travail. Il faut que tu apprennes beaucoup plus sur le chantier, justement, comme on dit, ou derrière dans un bureau, que tu vas apprendre dans les livres. C'est important de continuer à lire. Puis moi, la recherche, ça fait 40-50% de mon temps que je prends au travail, c'est de lire de la recherche constamment pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les marchés, avoir une opinion. Mais real life work experience, c'est quelque chose de différent.
Ce que j'entends, autrement dit, c'est qu'il y a, le fait que c'est gratuit ou que c'est très... L'éducation est valorisée, puis on est chanceux, ça coûte pas trop cher, puis on n'a pas besoin de s'endetter à coût de 100 puis de 200 000 comme aux États-Unis. L'envers de la médaille, c'est qu'on va peut-être tendre à aller trop vers l'intellectuel puis peut-être pas assez dans le hands dirty, les mains. C'est pas salir les mains au sens négatif, mais au sens de dire se lancer dedans puis vraiment apprendre aussi sur le tas. On va mettre de côté le côté apprendre sur le tas, mais il y a quelque chose de vrai puis de bon dans
ça. Je vais te donner un exemple concret de mes amis qui travaillent à Wall Street. C'est des portfolio managers, c'est des gestionnaires de fonds chez soit Blackstone, chez Millennium, encore chez Goldman, les traders. Ils n'ont pas de maîtrise, ils n'ont pas de CFA, puis crois-moi qu'ils gagnent bien leur vie. Puis c'est justement, c'est de la performance, c'est « What have you done for me lately? » Puis c'est surperformance constamment. Puis à Montréal, la comparaison, c'est justement une personne qui a une maîtrise puis un CFA, qui a 25 ans, qui cherche sa première job, puis il veut déjà être gestionnaire de portefeuille parce qu'il a une maîtrise puis un CFA, il veut pas commencer en back office. Puis hélas, la situation actuelle à Montréal, qu'on essaie de changer avec les gestionnaires en émergence, parce que justement, c'est l'écosystème financier montréalais, la façon que ça va grandir, c'est à travers les gestionnaires en émergence, créer d'autres histoires comme des Fiera, comme des Exovest, comme des Addenda, tu sais, qui peuvent se rendre à embaucher 100, 200, 300 personnes. Mais c'est comme ça qu'on l'écosystème montréalais de la finance peut grandir, peut devenir vraiment une capitale mondiale de la finance, parce qu'avec le talent universitaire qu'on a qui sort, on se compare très facilement à Boston. Boston a beaucoup d'emplois financiers. Tout le côté buy-side de Boston est impressionnant. On a une des plus grosses caisses de retraite au monde. La caisse de dépôt, c'est reconnu mondialement. On en a besoin de plus. Go!
C'est... Qu'est-ce que tu dirais? Ce serait quoi le défi? Là, tu travailles pour Gestion Landry, Financière Landry présentement. Ce serait quoi le défi si on y va plus particulièrement? Parce que ta job présentement, tu n'es pas gestionnaire de portefeuille. Non. Tu fais des recherches, tu me dis.
Mais je l'ai dans la recherche parce que je trouve ça important pour moi, pour pouvoir savoir ce qui se passe dans le marché puis avoir une opinion éduquée.
Mais le défi de Landry pour l'amener, parce que tu me parles d'Exavest, d'Adanda, on pourrait même parler de Jari Slowski qu'on vient de perdre. On va dire ça même. C'est un fleuron qui vient d'être rendu à Toronto, no offense, but il n'est plus ici.
Le siège social va encore être à Montréal, mais on va voir comment les emplois vont se faire combiner.
On va sourire sarcastiquement ici. Parfait. Ouais. On sait pas. On va le sourire au micro.
Ouais.
OK. Mais donc, le défi pour Landry de se rendre dans ces niveaux-là, parce que vous êtes encore en émergence, donc vous n'avez pas encore atteint le milliard.
Non, on est rendu à 320 millions sous
quand
gestion.
Quand même. Le momentum est là. Il y a un bon momentum.
Oui, en effet, les choses vont quand même bien. Le chef des investissements, Benoît Brion, est arrivé en 2012, où la firme était à peu près à 70 millions sous gestion. Puis avec Kit Delarois, qui est mon prédécesseur, qui m'a recruté pour ce rôle, qui lui est rendu chez KPMG et est encore un grand ambassadeur de notre firme. Vraiment, ils ont fait de 70 millions à 320 millions en 6 ans. Donc, une croissance assez importante. Et je crois que, justement, avec un peu d'aide de rendre les choses institutionnelles à l'interne chez Landry, la façon qu'ils gèrent le portefeuille, le style de gestion Valmo est unique.
Valmo, c'est?
Valeur et momentum.
Ah, OK. C'est pour ça que tu as souri quand j'ai dit momentum.
Oui, exactement.
Ah, c'était pas voulu, c'était prévoulu.
Puis justement, le style de gestion est très puissant. Les performances à ce jour sont très fortes aussi. Et justement, je pense qu'avec un petit peu de distribution stratégique, aux États-Unis.
Je vais mettre le pause. Oui, c'est là que je m'en viens. Parce que moi, parce que là, on est dans le groupe. Parce que dans le fond, en réalité, un fabricant ou un gestionnaire, c'est comme une usine qui fabrique des rendements. Pour sa matière première, c'est de l'argent. Puis pour avoir de l'argent, ça prend un réseau de distribution de ses produits. Et là, il y a deux grands créneaux qu'on appelle. C'est l'institutionnel et le détail.
Ouais.
L'institutionnel, ça serait la caisse de dépôt et de placement qui vous attribue un pourcentage ou quelque chose de genre qui arrive à un coût de 25, 50, 200 millions.
Ouais.
Merci beaucoup. Et ça, c'est un petit peu comme signer avec Walmart ou Costco, une grosse entente. C'est le fun, mais en même temps, c'est stressant si jamais l'entente n'est pas reconduite. Et l'autre façon, c'est d'aller détail. Quand tu parles de réseau de distribution, de faire une patte aux États-Unis, est-ce que c'est au niveau du détail ou de l'institutionnel?
L'institutionnel, surtout. Je dirais que ça, c'est mon gros focus. C'est ça ma spécialité, plus du côté institutionnel qu'au détail. Il faut dire que l'objectif de croissance, on est dans le programme des gestionnaires en émergence du Québec, le PGEQ. On a un mandat du côté traditionnel et du côté alternatif, 25 millions dans chacun. Les performances vont très bien à date. Ça fait à peu près un an et demi qu'on est dans ce programme-là. C'est un programme qui est incroyable pour les gestionnaires au Québec pour avoir justement l'opportunité de grandir avec des mandats puis de se prouver aux caisses de retraite qui participent au programme pour justement leur dire, bien, regardez, ça fait un an et demi qu'on gère 25 millions de votre argent en façon dans des fonds communs. Comment est-ce qu'on pourrait graduer la relation à un prochain niveau pour avoir une allocation directement de votre part? Donc, c'est un objectif qu'on essaie de faire au Québec. Je pense qu'on s'est bien prouvé à date. Et c'est justement cette approche avec les institutions, les caisses de retraite, les family office du Québec que moi, je vais focusser dessus. Je pense aux États-Unis, mes contacts à travers les fonds de pension, les consultants, les programmes de gestionnaires en émergence aux États-Unis qui sont beaucoup plus développés qu'au Québec. Les fonds de pension là-bas, ils allouent entre 2 et 5% de leur actif sous gestion total. Donc, si on prenait, puis la Caisse est un grand supporteur des gestionnaires en émergence, participe activement dans le programme du PGEQ, mais si la Caisse donnait 1% de ses 300 milliards, ça serait un beau 3 milliards pour les gestionnaires en émergence.
Ça changerait complètement la dynamique.
On a besoin de ce genre de support. L'écosystème québécois en bénéficierait énormément. Puis je pense à d'autres fonds comme Investissement Québec ou la FSTQ, que eux, leur objectif, comme la Caisse, c'est justement d'essayer de promouvoir l'économie québécoise. Je pense que ça irait directement avec leur mandat. Donc, un petit peu comme avec notre présidente Geneviève Blouin des gestionnaires en émergence du Canada, ainsi que moi-même qui est sur le board avec elle, on essaie de vraiment faire la promotion et d'éduquer les caisses de retraite québécoises à dire « Vous allez aider l'écosystème financier québécois à créer des emplois, créer des opportunités. » Puis c'est pas pour enrichir les gestionnaires. Quand on pense à, puis tu t'en as parlé un petit peu tantôt, les gestionnaires, un gestionnaire de fonds, oui, son produit, comme tu dis, à l'usine, c'est un fonds d'investissement. Soit pour un institutionnel, soit au détail, pour des gens fortunés ou pour la personne qui travaille au métro qui a besoin de littéralement faire gérer son fonds de retraite.
Quand il réussit à mettre sur pied un fonds mutuel.
Exactement. Puis, à la fin de la journée, notre produit, c'est un produit financier, mais on gère une business. Puis là, c'est là, moi, mon côté que j'essaie de développer chez Landry, c'est justement comment gérer efficacement une business et comment la faire grandir. Sous des actifs sous gestion, bien sûr, puis c'est un un scale game après ça. Une fois que tu as pas mal ton infrastructure de base pour couvrir tes coûts, grandir après ça, tes coûts restent assez fixes, puis tu es capable de justement générer des profits plus grands dépendant des actifs suggestions que tu fais. Mais encore une fois, il faut que le moteur continue à bien rouler avec des bonnes performances. Puis,
mais c'est le challenge. Quand même, tu prends à Apple avec son iPhone, il se renouvelle une fois par année, mais ils font toujours bien le même iPhone à chaque année. Puis s'ils me livrent la même chose, bien, je vais être content. Puis si quelqu'un me livre des pommes à chaque année ou des fraises à chaque année, puis ils sont de la bonne qualité, ça va être bien. Vous autres, ce que vous avez à livrer, c'est un rendement. Puis le rendement est toujours comparé à une chose, à l'indice, puis aux autres. Puis si. Puis, veut pas, quand vous êtes 200 compétitionnés, il va toujours avoir des 3e et 4e quartiles. Tu peux être enduré d'être 3e, 4e quartile pour un mois, 3 mois, 6 mois. Des fois, 3 ans, c'est une maudite bonne réputation, mais à un moment donné, tu peux pas. Puis, veut pas, c'est la voie de la. Tu as toujours une moitié qui va avoir de la misère parce que tu es comparé toujours à l'ensemble.
Ouais.
Le produit peut pas être juste bon. Il faut que le produit soit toujours excellent.
Exactement.
De là, ce que tu me disais tout le temps, le strive to achieve. Là, toujours
strive to outperform.
Strive to outperform. Ouais,
achieve, c'est la mission de Landry, c'est ça qu'on essaie de dire. Okay, c'est strive to outperform
ma gang
day.
De Québécois.
Ouais.
En français, comme tu dirais ça, c'est juste, en anglais, on le comprend bien.
Ouais.
Si on est bilingue, on va être correct.
On est en train de travailler avec nos agents marketing pour le bien traduire.
Parce que je comprends très, très bien
l'expression. Essayer de surperformer tous les jours.
Oui, c'est ça. Puis surperformer, ça sonne pas aussi bien. Hein?
Oui, non.
C'est... Se dépasser, mais ça marche pas pareil. Il y a quelque chose dans le langage.
On va le trouver. On va le trouver.
Dans les prochaines, tu as répondu pas mal à ma question 7. Je disais, quel conseil tu donnerais à un jeune qui est aux études en finance ou qui vient de sortir présentement? Je pense que c'est clair, mais...
Je suis mentor pour quelques étudiants, okay. Puis à McGill, puis un qui est justement déjà dans l'industrie un peu. Puis moi, c'est vraiment de l'expérience de vie que je pense que quand tu es jeune, aller voyager, aller avoir des expériences à l'étranger, revenir au Québec par la suite, c'est pas mal la meilleure façon d'aider l'économie québécoise. C'est sûr qu'on veut que nos jeunes restent ici, mais si les emplois sont pas disponibles pour ce qu'ils veulent, aller prendre cette expérience-là ailleurs, puis aller revenir. Puis si à 30 ans, ils veulent faire une maîtrise parce qu'ils pensent qu'ils en ont besoin, c'est excellent. Un CFA, c'est une accréditation qui est incroyable. Puis je pense que, justement, j'en parlais avec... une amie la semaine dernière qui a son CFA, qui a assisté à CFA Montréal comme panéliste. Puis, je pense que le plus gros respect qu'on peut donner à ceux qui complètent le CFA, c'est justement l'éthique de travail que ça prend. 300 à 400 heures d'études pour faire un examen qui dure une journée, ou est-ce que tu as 200 000 personnes à travers le monde qui font cet examen-là à chaque année? C'est très, très, très difficile. Puis un chapeau à ceux qui sont capables de réussir. Connaître ses forces et ses faiblesses. Puis moi, je pense pas que j'aurais l'aptitude de pouvoir faire ça.
C'est pas donné à tout le monde. Ça veut pas dire qu'on n'a pas sa place en finance. Puis le titre, ça prouve. Ce que ça donne, dans le fond, c'est que ça prouve la capacité d'être concentré, discipliné, puis d'être focus sur un but. Puis donc, cette qualité-là, on peut l'appliquer autrement.
Oui.
Dans le CFA, mais ailleurs aussi.
Puis, comme on disait exactement, dans la business de gestion de fonds, si on parle d'un hedge fund, si on parle de quelque chose de plus traditionnel aussi, comme un fonds d'investissement, fonds mutuel, t'as quelqu'un qui doit gérer le portefeuille, ça, c'est ton CFA. T'as quelqu'un qui doit le vendre et le distribuer et gérer la business, ça n'a pas besoin d'être un CFA. C'est pour ça que je dirais aux jeunes de ne pas penser qu'une maîtrise et le CFA, c'est la seule façon de se démarquer dans l'industrie.
Non.
Si tu n'as pas peur de prendre le téléphone, puis faire des appels, puis essayer de développer ton network, puis essayer d'apprendre à comment vendre.
Es-tu en train de me dire que l'option d'être un bon vendeur ou un communicateur, c'est encore d'époque en 2018?
Moi, je pense que c'est un énorme manque dans l'industrie en ce moment.
On a mis ça tellement de côté, le côté de la vente, parce que moi, quand j'ai commencé, je suis plus vieux que toi un peu, hein, fait que tout ce qu'il y avait, c'était des jobs de vendeurs. Il n'y avait pas d'autre chose à l'époque, en 83-84, avec les taux d'intérêt à 18%. Tout ce qu'on avait à avoir à mettre sous la dent, c'était de la vente. Puis c'était toujours vu comme la job de... presque, tu sais, vraiment de bas de gamme.
Ouais.
Tu es un vendeur, ça sonnait avec menteur, puis tous les autres mots qui finissent en heure sont pas
bons. On est tellement bon vendeur, on a changé le titre, ça s'appelle développement des affaires maintenant.
Développement des affaires. Mais... Mais c'est ça. Mais ça demeure que j'ai rencontré beaucoup de gestionnaires et je te dirais que c'est une qualité qui leur échappe en général.
Oui.
C'est intelligent, très le fun à jaser.
Oui.
Mais dire au niveau de la vente, de dire qu'ils s'en vont, là, on n'est pas sûr. Fait que ça prend tout ça pour
ça prend réussir. Un vendeur, une équipe d'une personne qui essaie de gérer un portefeuille pour essayer de l'agrandir. C'est une mission quasi que tu te tires dans le pied. Tu n'as pas le temps. Le gestionnaire de portefeuille doit être derrière les écrans en train de regarder ses portefeuilles, en train de gérer ça. Tu dois avoir quelqu'un qui est à l'extérieur, en train justement de cogner aux portes, appeler, essayer de trouver des allocateurs ou des investisseurs potentiels. Puis si c'est au détail, bien, tu peux faire de banque en banque, puis d'essayer de rentrer sur des plateformes comme Desjardins, comme la Banque nationale.
Oh.
C'est des belles opportunités pour les Québécois. Ils essaient d'essayer de promouvoir les gestionnaires québécois. Donc, on est chanceux de les avoir, mais si tu vas aux États-Unis, John Hancock, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citibank, c'est des énormes plateformes. Wells Fargo, c'est mondial. Puis, c'est juste à côté, c'est pas loin. Puis, les performances des gestionnaires au Québec, il y en a des très, très, très bons. Fait que je comprends pas pourquoi il y en a pas plus qui l'ont fait.
On va changer ça. Le but de ma question, c'était de me préparer pour la prochaine suite. J'ai des idées pour changer ça.
OK.
Parce qu'on fait un podcast en anglais.
Oui.
Puis, ça parle en anglais aux États-Unis.
Apparemment.
Puis apparemment qu'Internet, ça se range que là-bas.
Hey!
Puis, il aime beaucoup les accents. Fait que, regarde, on va changer, on va faire de quoi tu vas voir. Et je termine à ma dernière question. Quels sont les trois livres que tu as le plus donné en cadeau ou que tu as le plus référé comme lecture à tes proches dans les dernières années?
Je pense que le livre qui m'a vraiment ouvert l'esprit, puis ça, c'est quelque chose que j'ai lu, je pense, en secondaire 3, secondaire 4.
Okay.
Mais je l'ai relu récemment. C'est une série de livres de James Clavell. Ça se passe, c'est sûr, c'est moitié science-fiction, moitié historique. C'est les premières business d'échange d'opium et de versus le thé en Asie. Donc c'était comment t'appelles ça? Le nom du livre, c'est Noble House. T'as Taipan, t'as Shogun qui se passe au Japon, mais c'est tout l'échange de comment Hong Kong est devenu britannique en 1897 pour une location de 100 ans et comment Hong Kong est devenu une capitale asiatique pour le trading, justement, en général, si c'était pour les thés, pour l'opium, pour tout et de rien. Et vraiment voir comment, de génération en génération, la famille faisait différentes affaires pour survivre et pour croître la business. C'était vraiment quelque chose que de palpitant, mais en même temps d'historique, puis d'un petit peu mystérieux parce que c'était en Asie. Puis,
OK.
Fait que James Clavell, Noble House ou Taipan, les deux vraiment staples que j'aurais dit m'ont ouvert beaucoup l'esprit. Deux des côtés business que du côté voyage international, pensée globale. Puis c'est justement, c'est fait sur une vraie compagnie qui existe, ça s'appelle Jody's Matheson. Puis c'est eux qui ont, par exemple, Mandarin Hotel, Mandarin Oriental, puis plusieurs autres entreprises que, ça appartient à eux, puis c'est un gros conglomérat familial qui est...
Okay.
C'est spécial.
OK, ça va. Ben, écoute, je vais le mettre en note dans la page de l'émission. Les gens pourront... C'est un vieux livre.
C'est pas un si vieux livre que ça. Ça a été écrit dans les années 80-90.
C'est vrai que t'es pas si vieux, hein. C'est vrai.
Mais...
C'est pas si longtemps que t'es en secondaire 3.
Ouais.
J'oublie ça. Moi, je pensais à moi, secondaire 3, années sur les 10, tu sais.
c'est drôle parce que, justement, James Clavell, il est mort, je pense, 6 mois avant que la transition soit faite de Hong Kong à la Chine en 1997.
Okay.
Donc, il a manqué ça. Après avoir écrit pendant si longtemps là-dessus, puis les différentes colonies, justement, qu'il y avait, portugaises, etc. Fait que ça, c'était un des livres. Si je suis en train de penser du côté financier, Barbarians at the Gate, qui est un classique de leverage buyout aux États-Unis, vraiment palpitant, excitant. Liar's Poker, Monkey Business.
Ça, c'est Michael Lewis.
Oui, ça, c'est...
C'est la gang à Michael.
Classique.
En étant dans Wall Street, c'est sûr que Michael Lewis, tu vas tout le temps aimer...
Oui, mais les originaux, tu sais, dernièrement, Moneyball, c'était quand même bon,
mais les originaux, les plus...
Les originaux, les Liar's Poker, les premiers qu'il a fait vraiment quand il était dans sa vingtaine, là, puis, okay. Tu sais... Fait que ça, c'était vraiment intéressant, puis ça palpitait un petit peu plus. Puis ouais, je dirais, c'est dans la section financière versus l'autre, changer les idées un peu des fois de la finance.
Bon, mais écoute, c'est des livres que j'avais jamais entendu parler, par rapport à lui de Michael Lewis un petit peu, mais les autres...
Barbarians at the Gate, c'est un bon classique, justement. C'est KKR, puis RGR Nabisco, puis le buyout.
Là, c'est quasiment comme dans le Wall Street original, le film avec Geico. Là,
exactement.
1987. C'est quasiment un livre qui l'aurait influent, qui l'aurait quasiment...
Clairement.
Vite, là.
Okay. Ouais. Puis c'est historique comme livre. Okay. C'est réel, qu'est-ce qui est arrivé. Puis c'est très bien décrit, puis très bien écrit.
Ben écoute, ça fait le tour. Moi, j'ai plus de questions. T'avais-tu un dernier commentaire à faire pour nos auditeurs?
Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup de faire tout ce travail que tu fais pour les gestionnaires en émergence. Je pense que c'est important. Je pense que on va avoir le plaisir de t'accueillir au Cap Intro le 6 novembre au Club St. James. On a déjà une quinzaine d'allocateurs qui sont confirmés des États-Unis, de l'Ontario et du Québec. On va avoir...
Des allocateurs, c'est des allocateurs d'actifs. Juste pour comprendre, parce que moi, c'est un terme que je ne connaissais pas avant d'arriver dans votre gang.
Okay? Ouais, OK.
Fait qu'un allocateur d'actifs, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent lui-même, mais c'est lui qui spin l'argent de quelqu'un d'autre.
C'est de la caisse de dépôt. Un représentant.
C'est ça, c'est pas son argent, mais lui.
Mais lui, il se fait dire tu as 5 milliards à gérer et à donner. C'est un gestionnaire de portefeuille, mais il donne ça à des mandats externes. Fait que lui, il va faire une structure de portefeuille à l'externe, puis dire j'ai besoin d'un gestionnaire global, j'ai besoin d'un gestionnaire canadien, j'ai besoin d'un gestionnaire.
C'est un contracteur en construction.
Exactement. Exactement.
Il engage un électricien, un plombier.
Exactement.
Nous autres, d'être plombier, électricien. Non, mais je comprends. Autrement dit, un allocateur, il va construire le portefeuille de façon stratégique avec différents gestionnaires qui vont assembler un dream team, dans le fond.
Exactement. Puis c'est avec eux que, justement, les gestionnaires en émergence, on essaie d'avoir plus d'actifs d'eux autres parce que quand un gestionnaire en émergence commence, la plupart du temps, c'est friends and family que ça commence.
Oui.
Après ça... C'est un petit peu de chance avec quelques individus fortunés que ça commence à donner des 500 000, des 1 million. Mais déjà là, il n'y en a pas... c'est pas facile nécessairement à les convaincre d'investir dans un gestionnaire en émergence, à moins qu'ils soient vraiment convaincus sur toi, ta stratégie, c'est des amis de longue date. Puis après ça, tu rentres au family office. Family office, c'est des familles fortunées qui ont n'importe quoi entre 50 millions et quelques milliards. Et qui, justement, font une répartition d'actifs eux-mêmes versus des gestionnaires externes pour diversifier leur portefeuille. Des fois, ils ont des choses en immobilier, comme ils ont des actifs en marché émergent, comme ils ont des venture capital, comme ils ont des private equity, et ils ont aussi des gestionnaires qui font des gestions d'actifs pour eux autres.
All right. Cap Intro, j'ai bien hâte d'aller faire un tour, là.
Ça va être la fun.
Et je te remercie beaucoup. On va se retrouver aussi. On va en faire un autre là, bientôt sur en anglais. Stay tuned. Hey, merci Charles.
Merci Pierre-Luc.
Bye. Donc oui, le podcast va continuer en français, mais j'ai créé un nouveau podcast qui s'appelle le Inside Finance Café, qui va être aussi sur les plateformes Spotify, iTunes et toutes les plateformes. Et puis, ce podcast-là va être pour la clientèle anglophone parce que je veux faire rayonner les gestionnaires en émergence de Montréal, que la plupart sont tous bilingues, et je veux les faire rayonner grâce à ce podcast-là à travers le Canada et idéalement qu'on se rende jusqu'à Boston et peut-être même New York. Pourquoi pas? C'était ça que je voulais dire en blague. Est-ce que le podcast va faire une différence? Écoute, on va rester humble ici, de ce côté-ci du micro, mais c'est pour, je pourrais dire, avoir de l'enthousiasme, être capable de rencontrer ces gens-là. Là. On parle d'une autre langue, on fait des choses, on ne sait jamais. Vous savez, ça prend des fois juste un appel, une chose à un moment donné qui va changer. Et puis, j'ose penser que peut-être un petit podcast sympathique peut peut-être faire une petite différence pour un ou deux personnes, peut-être 12. Mais on continue. Si on n'a pas de rêve dans la vie, on n'a pas grand-chose. Donc, on continue de rêver. Et mon objectif, c'est que ça puisse les faire rayonner, bien évidemment, into the second tongue that is English. Alors, merci d'avoir écouté. Ça a été une entrevue différente de l'habitude parce que Charles, comme je dis, il est sur le CGE, vous avez entendu, il est sur le PGEQ aussi. Et puis, il va y avoir le fameux cap intro. On va s'en reparler dans les prochaines entrevues de cet événement très important pour les gestionnaires où est-ce qu'il y a une espèce de mariage ou de rencontre qui se fait entre les allocateurs d'actifs, ceux qui ont des sous à donner en gestion et les gestionnaires émergents. C'est vraiment le même principe que du speed dating quand on vient de rencontrer un homme ou une femme ou des couples quand on fait du speed dating, mais ça se fait entre des allocateurs d'actifs et des gestionnaires. C'est des événements qui sont peut-être peu connus, c'est pas des événements où les gens du public sont en général invités, mais c'est intéressant que ça se passe ici à Montréal parce qu'il y en a plusieurs autres en Amérique du Nord, bien évidemment, mais c'est des belles initiatives des jeunes dynamiques de la région, puis on continue d'en parler de façon, je dirais, positive, puis enthousiaste. Alors, c'est ça. Alors, tous les semaines, on continue, on n'arrête pas, on continue toujours de faire le podcast. Si vous voulez, je reçois des questions, des commentaires, vous pouvez me rejoindre, Pierre-Luc Poulin, je suis sur Facebook, facile à trouver. Je ne suis pas le kayakiste, si jamais vous allez voir, faire des recherches sur Internet, vous allez voir qu'il y a un Pierre-Luc Poulin kayakiste qui va très très bien d'ailleurs, en très bonne shape, mais beaucoup plus jeune et beaucoup plus différent de moi, disons, jusque sur cette part-là. Puis vous pouvez vous tromper entre les deux Pierre-Luc Poulin. Donc, je suis sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, qui est mon logiciel, pas logiciel, mais mon réseau social de prédilection, ben oui, LinkedIn, et YouTube également, où est-ce que je mets des vidéos régulièrement, et Instagram, pas beaucoup, mais en tout cas, à un moment donné, je vais m'y mettre plus un petit peu. Alors, merci d'avoir été là, puis ben, à la prochaine, puis gardez gardez vos rêves bien vivants, ça vaut la peine, puis c'est le fun de vivre dans ce moment-là. Bye-bye.